Salut Jean-Luc, c'est Jacques au pays du gruyère sans trou. Et ben voilà, c'est l'histoire de Jean-Luc Déboulonné. Je te souhaite tout de bon et je pense pas qu'on te reverra sur Radio Medef. Alors je te serre la pince pendant qu'il est encore temps et puis merci pour tout ce que tu as fait. Au revoir.
Salut Daniel, c'est René de Montpellier. Peut-être vas-tu me trouver bien naïve, mais je voudrais savoir ce qu'on pourrait faire pour venir en aide à Jean-Luc S. et sauver l'objectivité de France Inter. Ça m'intéresse beaucoup. Grosse bise, à bientôt, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Julien de Charente. Je t'appelle parce que j'ai appris ce matin chez Paoli, puis après dans Tam Tam, que Jean-Luc S. s'était fait virer de France Inter. Alors ben voilà, moi ça me laisse un peu perplexe tout ça, je sais pas trop quoi en penser, j'espère que ça n'annonce pas changement radical, j'espère que vous serez tous là encore l'année prochaine, je sais pas, moi je trouve que ça devient un peu limite là, mais enfin bon, voilà, je sais pas trop. En tout cas, merci à vous et puis bon courage, merci, j'espère que je pourrai encore vous écouter pendant longtemps, à 17h sur là-bas si j'y suis, sur France Inter. Parce que cette émission, elle est, comme tu le dis souvent, modeste, mais vraiment géniale.
Oui, bonjour Daniel, c'est Brigitte. Je t'appelle parce que ce matin, j'ai entendu au 7-9 de Stéphane Paoli que l'arrivée du nouveau président avait chassé Pierre Bouteiller et Jean-Luc S, qui sont quand même de sensibilité autre que notre cher Juppé. Donc je suis très, très pas étonnée, mais assez choquée. Donc je me dis que d'ici quelques temps, on va voir arriver des gens différents, et déjà que je trouvais que c'était un petit peu de plus en plus à droite, donc là c'est vraiment, c'est moins une mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'il faut être vigilant, il faut que tout le monde soit vigilant, et puis j'espère que tu te tiens bon, et que tu seras là l'année prochaine. Voilà, au revoir.
Le maquis, les barricades, la résistance pour sauver le soldat S et le soldat Bouteiller. Voilà le cri, les pleurs et les grincements de dents qu'on peut entendre sur le répondeur de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, et très bientôt, je pense que la tête de Pierre Bouteiller et la tête de Jean-Luc S vont remplacer la figure du Che sur les t-shirts des rebelles. Alors on entend ça sur le message, sur le répondeur de la basse. Il y a beaucoup de messages quand même depuis ce matin, mais c'est aussi dans la maison de la radio, dans la maison ronde qu'on entend beaucoup de choses sur ces évictions, évidemment très brutales. Ce qui ressort de vos messages sur le répondeur de la basse ici, c'est trois mots. Le premier, c'est choqué. Vous êtes vraiment choqué. Vous avez été choqué d'apprendre de quelle façon Pierre Bouteiller et S avaient été virés. La deuxième chose, c'est l'inquiétude, évidemment, sur le sens qu'on peut donner à cela et sur l'indépendance, la liberté, etc. de notre antenne et de notre maison. Et puis le mot qui revient toujours, évidemment, c'est le mot vigilance pour la suite. Mais au-delà de ça, ce que ça montre une fois de plus, est-ce que nous oublions, nous, parfois à l'intérieur, enfermés dans notre maison ronde, beaucoup trop enfermés dans notre maison ronde, c'est que nous sommes bel et bien, à travers votre attachement à réagir, le symbole sonore de l'attachement des Français, de votre attachement au bien public et au service public. Voilà ce que nous sommes, malgré nous parfois. Mais Radio France est la première entreprise culturelle en France. Faut jamais l'oublier. Vous êtes 12, 13, 14 millions chaque jour à vous porter à l'écoute d'une des radios de Radio France, il faut jamais l'oublier. Et nous sommes la seule entreprise culturelle ou médiatique, comme on voudra, qui n'a pas le profit pour but. Et des gens comme S et Bouteiller ont participé à donner un autre sens que le profit à notre entreprise. Et puis ça fait de départ un peu émouvant pour nous, parce que c'est Bouteiller et S qui ont permis là-bas si j'y suis, c'est-à-dire qu'on donnait toute la liberté possible à cette émission depuis 1989, et on a essayé d'utiliser et même d'abuser le mieux possible, j'espère, de cette liberté. J'espère que ni l'un ni l'autre ne seront sérieusement écartés de cette maison qui reste leur maison. Ils ont évidemment notre amitié, notre affection. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'ils savent l'un et l'autre parfaitement. On continue, je ne sais pas jusqu'à quand. Bienvenue à bord du Titanic. On pourrait dire ça aujourd'hui. Il y a d'autres messages quand même sur le répondeur de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ça m'énerve d'entendre des gamins admettre leur esclavage aux marques. Moi, je refuse d'être à la veille d'une société d'objets, d'argent, de consommation pour être soi. Réveillez-vous, bon sang. Résistez à ce fléau. Il en est encore temps. C'est Brigitte.
Oui, bonjour, je suis Alain Dijon. Voilà, je viens d'apprendre que Dieudonné avait été relaxé et ça me fait grand plaisir. J'ai pas d'attache particulière avec Dieudonné. Je suis jamais allé le voir en scène, rien du tout, mais ça me fait bien plaisir parce que je me demandais dans quel pays je vivais, là. Ça, je comprenais plus tellement. Alors donc, qu'il soit relaxé, bien, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.
Voilà, je voulais tout juste vous signaler la sortie d'un livre qui s'appelle France-Algérie, manipulation et mensonges d'État par Jean-Baptiste Rivoire. Voilà, c'est un livre qui explique comment les militaires algériens, ces minables, ont manipulé quelques barbus et aussi eux-mêmes ont assassiné, c'est-à-dire les militaires, des milliers de villageois algériens en toute lâcheté et ont manipulé donc des islamistes pour venir à Paris pour, en 95 où ils ont donc commis un attentat pour obliger l'État français à soutenir leur politique ignoble. Donc voilà, c'est pour vous dire que finalement il y a tellement de manipulations dans ce monde. Et voilà, c'était juste pour signaler ça. Je pense que ce livre n'aura pas beaucoup de bruit, comme tout ce qui peut gêner les gouvernements. Voilà, j'espère que vous passerez mon message. Merci, c'était Nadia d'Avignon.
Oui, Nadia, non, ce livre ne va pas passer inaperçu, même si certains aimeraient le faire passer sous silence. J'espère qu'on pourra en parler d'ici à fin juin dans une émission. Et à défaut, on s'en occupera, enfin on en parlera à la rentrée. C'est effectivement un livre tout à fait passionnant, la France-Algérie. Aujourd'hui on se détend, c'est vendredi, et on va parler de Blaze et de Blair. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez, vous allez voir, c'est du nez dont nous allons parler. Comment trouvez-vous votre nez? Vous allez me dire que ça n'a de rapport avec rien, ben c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. On y va doucement avec Nawa. بلادي بلادي لافريك دي نور راه لافريك دي نور مشيت عليه طماجور قلب 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 عينيك تشوف لونفير دي ديكور من قدام ومالور بين لارمي وبني قندور سبعة والبوس والآو العباية والشابور لي بانكيتين في تيرشاشي سون امو دي تور واحد عبد الامير والاخر عنده شيكور شاكان صبا شكور با بزوان دو ديسكور فرمي لي ستورا جوستو دون كون جوستو غابور دي كون كي سفادا فرمي لي ستورا جوستو دون كون اي رابور بي مانجيري سون ديزاكور فرمي لي ستورا Juste le temps qu'on reste en train de conquise la dofe et mes histoires. Juste le temps qu'on est là-bas, mais la gérie sont des accords. Mais beaucoup d'autres ont les mains sales. Quand il s'installe comme une sorte de carnaval, la PR, les barbus et sympa, l'équipe joue à la bala. C'est à celui qui dans la main sera le plus bestial. La politique du vida est à vide, même sous vide. Ils vendent du coco, ils achètent les arachides. La balance, les trucs et des deux côtés pèsent. La menace, tout ça, manabat de l'homme, dans le but du but, qu'est-ce qu'on a fermé les stores. Juste dans le temps, on reste en papier des Fermez les stores, juste le temps qu'on est là-bas, une Algérie sans désaccord, fermez les stores. Juste le temps qu'on reste en papier des conquises, on doit fermer les stores. Juste le temps qu'on est là-bas, une Algérie sans désaccord, fermez les stores. On pourra faire du bois, alors on boit de l'autre, fais des cafés. La maman et son dos, les merveilles, les morts, les vivants rêvent d'aéroports, certains se taisent et subissent le chaos.
qui met KO. Ils ont dit d'or, pendant qu'ils égorgent et déplorent, ils ont dit d'or. Et c'est pas de la métaphore, la parole n'est pas d'argent, le silence n'est pas d'or. Converti en dinar algérien, le mutisme c'est la mort, ouvrez les stores. J'ai pas tant d'or pour faire remplir mes complices, là-bas, ouvrez les stores. J'ai pas tant qu'on élabore une Algérie sans désaccord, ouvrez les stores. J'ai pas tant d'or pour faire remplir mes complices, là-bas, ouvrez les stores. J'ai pas tant qu'on élabore une Algérie sans désaccord.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie Simoneau. Là-bas, je les suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Nif. Nif. C'est bon, Nif, non? Et Mémé, comment on dit en...
Comment?
Toi, tu le connais en arabe?
En arabe, je sais pas, ma puce.
Oh non, comment tu sais pas, ma puce? On l'appelle Nif.
Le nif, hein, le nif, c'est le nez, imbécile.
Oui, c'est ça.
À tes souhaits, 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 à tes souhaits.
Bif, Blair, Blaze, Naze, Truffe, Tarin, Tarbouif, Aquilin, Épaté, Cassé, en lame de couteau, en quart de brie, en trompette, en groin, en prise de courant, retroussé, qui pleut dedans, patate, roque, pique, cap, péninsule, oblongue capsule, écritoire, boîte à ciseaux, perchoir, cheminée, porte-chapeau. Oui, aujourd'hui, alors que la France n'en peut plus de ne plus se sentir, aujourd'hui, tandis que la moutarde nous monte au nez contre ceux qui nous gouvernent au pif, sortez vos mouchoirs pour la célébration d'une protubérance. Hommage à une turgescence, à cette sentinelle érectile, ce sexe au milieu de la figure, et pas seulement celui des messieurs, si troublant pour les dames qu'on le voile en Orient. Une petite balade en forme de pied de nez, une balade en équilibre sur la partie saillante, pyramidale et triangulaire qui participe à la physionomie du visage, jusqu'à se retrouver nez à nez avec le fin fond de l'humain. Le nez, c'est le nœud. Le nez, c'est le nom. Là-bas, si j'y suis, les doigts dans le nez.
À tes souhaits, 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 à tes souhaits.
Il est des nez de toutes sortes, des nez de toutes dimensions, et selon celui qui le porte, ou bien il a de l'intuition, ou bien il ne sert à rien d'autre qu'à se fourrer dans des mouchoirs. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'une autre, c'est un nez qui est fait pour te voir. Ainsi donné de la police, celui que l'on trouve partout n'est pas un vulgaire appendice fait pour respirer par ses trous. Non, c'est donné d'un chien de race, vigilant et fin limier. Et lorsqu'il s'en va à la chasse, arrive à trouver son gibier. Le nez adore de notre intelligence, gouvernail de nos intuitions. Par les chemins de l'évidence, nous fait trouver des solutions. Le nez vraiment la chose idéale que n'avait jamais porté. Et gloire à nos fausses nasales, car nous ne serions rien sans nez. Né, 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 né.
Alors à quoi ça sert un nez?
À respirer. Et puis peut-être aussi à sentir les plantes. On peut sentir n'importe quoi. Par exemple, si les chaussettes, elles sont sales, par exemple. On peut sentir. Et aussi dans les culottes.
Depuis l'année dernière, j'étais à l'hôpital et je sens plus rien ni je ne goûte plus rien.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, il s'est passé que j'ai eu une phlébite et on m'a tellement piqué partout que... qu'on m'a tellement fait des machins et des trucs que je ne goûte plus rien ni je ne sens plus rien. Mais ils m'ont sauvé quand même.
Est-ce que ça va aller le coup alors?
Ah oui, ça va aller le coup. Oh ben, j'en ai 90 alors, vous voyez. Hein.
Ça vous arrive parfois d'être nostalgique de certaines odeurs ou de certains goûts quand même?
Faut pas y penser. Faut encore vivre, quoi. C'est... Mais enfin, moi ça me ferait rien de m'en aller.
Pied de nez, voilà ce que c'est, ça s'appelle un pied de nez, né de l'enfance, né perdu de la vieille dame qui ne sent plus rien. Dans notre monde où nous favorisons l'audio et le visuel, aurions-nous laissé tomber le nez? Évoquer le nez, c'est sourire. Le nez fait sourire. On va parler du nez aujourd'hui avec Sophie Simoneau. Pas tant de l'odorat que de la forme du nez. Alors évidemment, il y a tous ces aspects que le nez revêt, mais il y a aussi que le nez est creux. Et alors, pour passer de l'un à l'autre, du creux au plein du nez, il y a les trous de nez. Ça, c'est pas facile d'évoquer sans trivialité ces jumeaux orifices. Quel poète galant a réussi à chanter les trous de nez de sa bien-aimée avec ses petits poils et tout ce qu'il y a dedans. Répugnant, le nez vite répugnant et pourtant indispensable. Cette vieille dame à 90 ans dit il ne faut pas y penser et on verra si on a le temps plus tard ce qu'est un homme sans nez comme Gogol l'imagina dans une fameuse nouvelle. Et puis il y a l'idée que le nez permet d'éternuer à vos souhaits. Et ça c'est magique. N'oubliez pas d'avoir des souhaits. N'importe qui se transforme en bonne fée à l'occasion d'un éternuement. Alors j'ai dit pied de nez. Et c'est vrai que le pied et le nez ne sont pas si loin. C'est bien connu dès qu'on parle du nez. Depuis toujours, dans toutes les cultures, on trouve des symboles, des mythologies, des analogies, des similitudes et des équivalences entre le sexe et le nez. Mais, attention, pas seulement le sexe du monsieur. Long, large, cambré, épaté, embusqué. Et pour ce qui me concerne, moi qui vous cause... ce truc qui en tout lieu d'un quart d'heure me précède. Non, pas seulement. Mais quelqu'un comme un auteur comme François Bernard Michel, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Du nez », eh bien, il nous dit que le nez est le seul organe impair et médian, à la fois saillant et creux, masculin et féminin, pourvu, comme le sexe, d'une muqueuse dotée d'érection. Mais c'est pas tout. On va voir comment, à partir d'un nez, en examinant un nez, on peut prédire l'avenir et surtout deviner, sans connaître la personne, son identité.
What, Isa.
Oui.
Comme votre père.
Comme mon père?
Oui. Oui.
Comment vous savez ça?
Oui, parce que je vis votre nez.
J'ai un nez comme un monsieur.
Oui, mais votre caractère, c'est les hommes.
Un caractère d'homme. Vous n'êtes pas une fille, mais un homme. Votre caractère ressemble à celui d'un homme.
Oui. Mais vous voyez tout ça à mon nez?
Si. Oui. Vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 3 frères et soeurs. Vous, c'est troisième.
Moi, je suis la troisième dans la famille.
Voilà. C'est ça.
Bon. Bah, c'est vrai, oui. Bon. Mais à quoi vous voyez ça, monsieur?
Oui, parce que je vis, vous tenez, je connais. Mais la racine, il n'y a pas de...
C'est pas charnu. C'est-à-dire, elle est maigre, votre racine. On voit l'os. Alors, il devine que vous êtes en troisième position. Il voit, c'est une expérience. Il ne peut pas expliquer, vous voyez. C'est la façon comme on lit les lignes de la main. C'est la même chose.
Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, pour lire dans les nez comme ça?
Maintenant, je touche, c'est RMI.
RMI. Il ne peut plus travailler. Il a plus de 60 ans déjà.
J'ai appris le Simoncien.
Chiromancien, non? Chiromancien.
Vous êtes un chiromancien. C'est-à-dire que vous lisez l'avenir des gens sur leur visage.
Oui.
Mais ça, c'est propre à vous ou c'est vietnamien?
Ça, c'est son système à lui, ça.
Le nez, le nouille.
Le nez du monsieur qui est assis à côté. Voilà. Vous avez il a un gros nez. C'est ça?
Voilà, il est long, oui. C'est 90 ans. C'est parti, là. Moi, j'ai 100. 116 ans.
Mais c'est 116 ans?
Oui, parce que les oreilles comme le Bouddha. Voilà.
Ah, vous avez les oreilles de Bouddha.
Et lui, le Bouddha. Et lui, c'est les oreilles comme le patron, restaurant patron.
Oui.
Patron de restaurant.
Le nez. C'est notre sujet aujourd'hui et c'est notre balade, le nez. Le nez trahi, le nez traduit, le nez sent et fait sentir beaucoup, presque tout sur chacun. Mais un nez peut-il dire un pays, être le symbole d'une nation? Pourrait-on imaginer un drapeau représentant un nez, un hymne national où vibrerait la cloison nasale du nez de la patrie? Songez que l'un des plus grands héros français de la fiction, mais devenu une réalité, c'est Cyrano, Cyrané de Bergerac. Qui est Cyrano? Un vieux type, brillant, frustré, donneur de leçons, cultivé, magnifique et perdant. Voilà le plus français des héros. C'est dans cette pièce que tout le monde déteste, sauf le public, selon René Clair, qu'on doit sans doute trouver quelque chose de spécifiquement français. Peut-être qu'avec Pinocchio et son nez qui pousse, on trouve un trait du caractère italien. C'est quand il voit la fée que son nez pousse, le Pinocchio, et la fée, on s'en apercevra... Et sa maman, faut vite faire venir le père Freud pour comprendre ça, la maman étant la mama, tout ça est bien compliqué. Ça dit quelque chose peut-être sur l'Italie. Peut-être que la belle Cléopâtre symbolise son peuple avec son nez que s'il eût été différent, la face du monde s'en serait trouvée changée. Mais Cyrano, increvable chef-d'œuvre, est sans doute la seule pièce de théâtre, fierté française, cocorico, qui repose entièrement sur un nez. Dans Cyrano, le nez, c'est le nœud. Nez phallique, bien sûr, qui dépasse, embarrassant, gênant, pas correct, débordant du cadre, laid comme le désir, hideux comme la vie, impérieux comme elle, est toujours insuffisant, et toujours en forme de secrète défaite. Et c'est aussi une arme. Cyrano le dit quelque part, la pudeur vous défend de voir ma lame nue. Qu'en est-il dans les balades de Sophie?
Moi, j'ai jamais vu des nez qui poussent, en tout cas. Mais ma mamie, des fois, elle disait que j'avais le nez qui pousse. Et puis, c'était pas vrai, je sais que c'était pas vrai, parce que les nez, moi, je sais que ça pousse pas. Et puis, sauf le nez de Pinocchio, lui, il peut pousser. Sinon, moi, j'ai jamais vu un nez qui pousse.
Et est-ce que tu l'aimes, ton petit nez?
Oui. Je crois quand ma maman elle était petite, il me le nez il lui ressemble. Et d'ailleurs, il sera comme maman parce que mon nez il était pareil quand elle était petite.
Et si t'as le nez de ton papa?
Je m'en souviens plus comment il est de mon papa parce qu'il habite dans une autre maison. Et quand j'étais un bébé, il mettait même pas le chauffage. Alors j'attrapais tout le temps une maladie. Et même maman. C'est... Non, j'ai vu le feu passer pour ça. Je le nez de ma maman. Parce que... Un jour, il a cassé le nez de ma maman parce que il jouait avec mon maman, mais il l'a pas fait exprès.
Et qu'est-ce que tu feras si t'as le nez de ton papa?
Je remplacerai par un autre. Je mettrai un déguisement de nez. Le nez de ma maman.
Non, j'aurais pas souhaité la ligne du nez de mon papa. Non. C'est pas de naissance, hein. De naissance, il était normal. Bon, comme j'ai essayé de le remettre aujourd'hui, justement, comme il était auparavant, c'est après mon accident. Hein. Je voulais rentrer donc dans un pressing, hein, une laverie automatique. J'ai pas fait très attention. La porte vitrée était fermée. Et je courais. Et puis je suis rentrée dans la porte, en fait. Bon, et le coup a porté sur le nez. Et de là, bon, ben, toutes ces horreurs, quoi, cette grosse bosse, un nez complètement de travers et puis une pointe tombante.
Avant, il était comment?
Mignonnet.
Ah bon?
Vous voyez bien, hein, c'est un petit peu le profil de ce que j'ai aujourd'hui, maintenant. Puisqu'en fait, je suis partie de mes photos de petite fille pour justement remettre mon nez comme il était auparavant. Et j'ai assumé mon problème toute seule. Ben, je me suis mariée très tôt, déjà d'une part, je me suis mariée à 16 ans. Bon, j'étais déjà partie parce que bon, j'en avais marre. D'ailleurs, mes parents ne savent même pas que je me suis fait opérer. Non, ils ne l'ont pas vu. Non. Et c'est vrai que quand on en parle, quelque part, il y a une blessure qui est toujours là. Et que, bon, j'en parle librement. Je ne suis pas gênée d'en parler. Je n'ai pas honte. Mais il y a une blessure en moi. Elle va se dissiper. Mais il y a une blessure quelque part.
À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. C'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. C'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore.
Il paraît que c'est un dit-on dans certaines régions de France que si effectivement une jeune fille ressent un grattement, un chatouillement du nez, alors voilà, c'est signe qu'un jeune homme l'adore ou qu'un vieux l'aime. Blase, on dit. Blase. Blase, c'est comme Blase. Blase, le nom, c'est le Blase. Et le Blase, c'est le blair, le nez. Blase et Blase. Blase, c'est blason. C'est bien ça. On peut tout dire avec un nez. Le nez, c'est le nom. Et en parlant de son nez, on parle de son nom, on parle de soi. Et on le modifie. Et c'est extraordinaire. Je disais, bien sûr, et tout le monde, tout de suite, l'image qui vient, c'est celle de du rapprochement avec le sexe. Évidemment, entre le sexe et le nez. Et dans la mythologie grecque,
On voit ces histoires, le volume du nez est lié à la puissance virile. Je ne sais plus quel auteur raconte comment, pour le prince, pour ses infâmes débauches, choisissait des jeunes gens bien montés du nez. Mais du côté des dames, le code pénal des pharaons condamnait les femmes adultères à l'amputation du nez. Eh ouais, si elles vous trompent, tac, on lui coupe le nez. Et dans la Chine impériale, tout comme, dit-on, dans la Perse, le mari trompé arrachait à coups de dents le nez de l'offenseur. Et là, évidemment, on retrouve la castration. Et c'est peut-être là l'origine de l'expression « se bouffer le nez ». En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces outrages et ces punitions nasales, pour adultère, mais aussi pour vol, mais aussi pour crime, aurait été à l'origine de la greffe d'organes. C'est-à-dire qu'on aurait inventé la greffe d'organes à cause de ces destructions ou de ces arrachages de nez. Et on fait remonter la greffe d'organes, la première greffe, au 8e siècle avant notre ère. Elle aurait été pratiquée par un chirurgien, donc, de l'Inde, qui habitait en Inde et qui s'appelait Susruta, en partant d'une toute petite chose qui nous a semblé un truc comme ça. Tiens, c'est marrant d'aller demander aux gens comment vous trouvez votre nez. On pensait pas découvrir des choses pareilles ni des mots pareils.
Je suis métisse, donc c'est déjà un nez métissé, donc il emprunte à deux types de entre guillemets de beauté, parce que je me considère pas comme beau, mais Mon père est antillais, donc il y a les racines africaines, la négritude. Et puis ma mère est allemande, donc bon, c'est un nez de shaker. on a mélangé deux racines. Et quand j'étais petit, on aurait dit vraiment un petit français, tout mignon, petit enfant qu'on trouvait très beau et tout, le petit prince un peu. Mais je sais que j'ai des idées bizarres. J'ai été chez le pharmacien, j'ai pris une crème amaigrissante, et puis pendant 2 mois, j'ai massé mon nez avec. Je sais que c'est un peu fou, c'est la première fois que je le dis en fait. Je l'ai jamais dit. Ça me revient à l'esprit. Puis bon, j'ai trouvé ça complètement con. Donc ça coûtait cher en plus. Donc j'ai laissé tomber. Puis arrivé à 20 ans, c'est... Déjà, c'était pas viril. Donc on se dit toujours que c'est les nanas qui s'intéressent à leur nez, à leur visage. Donc un mec, ça passe à se poser des questions sur son visage. Bon, mon père est quand même d'origine antillaise, donc peut-être qu'il aurait mal compris aussi mes scrupules. Il aurait cru que c'était par rapport à un rejet de la négritude, une partie de ma négritude. C'était assez étrange, en fait. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pesais, donc, à pas tout le monde, mais à quelques personnes. Puis voilà. Donc, on prend de l'assurance. Mais c'est vrai que je suis content parce que ça me donne une assise, une solidité. C'est vrai qu'on associe toujours l'homosexualité à une certaine faiblesse, et physique, et morale. Et là, ça me donne, on va pas se demander si je suis homo, on verra mon nez peut-être, effectivement, on verra quelque chose de fort, de grossier, entre guillemets, de brut, comme du béton, comme, je sais pas, comme de la pierre, mais une pierre, pas du marbre rose, du beau granit, enfin, du granit, la menhir, quoi, en fait, le menhir, je crois que c'est cette idée tellurique du nez, quoi, puis voilà. Ça se voit pas du tout comme un nez en plein milieu d'une figure, on pourrait inverser le proverbe. Mais bon, c'est bien aussi. Ça fait partie du mystère des choses. C'est très bien.
Ça réveille. Voyons si ce petit bouton que j'avais hier sur le nez n'aurait pas eu l'audace d'augmenter de volume pendant la nuit. Voyons cela. Tiens, c'est curieux. Je n'aperçois plus le bouton. Où peut-il bien être? Ah, mais par exemple, je ne vois plus mon nez non plus. Le miroir est pourtant propre. Mais j'aperçois mes yeux, mon menton, mes cheveux, mais je ne vois plus mon nez. J'avais pourtant un nez. Alors, c'est ridicule. Je suis mal réveillé. Un peu d'eau. Oh, quelle effroide. Eh bien, si avec ça je ne vois pas tout à fait clair. Et non, toujours pas de nez. C'est affreux. Je n'ai plus de nez du tout. C'est tout lisse quand je touche. Poil horreur. S'il avait au moins quelque chose à la place du nez, mais non, rien. Une surface lisse. Qu'est-ce que je vais faire de sa voix? Mon nez, dont j'étais si fier.
Eh oui, Gogol. Le nez, nez en moins, ça pourrait s'appeler. Imaginez, imaginez sans nez. Que deviendrions-nous? Que serions-nous sans nez, ce nez qui fait sourire? Le nez, c'est le nez rouge, c'est le nez du clown, c'est ce tarbouille, ce tarin qui pendouille là, qui est là, qui est pas... C'est moins beau que les yeux, on dit. T'as de beaux yeux, tu sais, mais on dit pas t'as un beau blé. Ça, ça se fait pas. C'est comme ça, c'est ainsi. Et c'est ça qui nous a donné envie de nous balader, nez en l'air, à demander comment vous trouvez votre nez. Et il semble bien que ça se décline, le nez, selon, comme on dit, les cultures.
Voilà, c'est tout.
Comme le monsieur, il trouve son nez très beau. Il peut respirer avec, il peut aussi avoir la fierté. Et chacun parmi nous, tout vivant sur Terre, il a son nez. C'est-à-dire, il a son nif. Moi, par exemple, s'il me propose le lendemain de venir français, j'ai ma fierté, j'ai mon nez, je dis non, je n'accepte pas. Ah ouais? Je garde. Je dis non. J'ai déjà dit non. Ouais. C'est-à-dire, c'est ma fierté, c'est mon nez à moi.
Comment on dit alors le nez dans votre langue? Non,
ben, la Côte d'Ivoire, il y a 60 langues là-bas. Alors, dites-moi dans ma langue, peut-être. Moi, je suis Dida. Le Dida, le nez, on dit mle. Mle, Dida, tout. Bêtise, c'est comme ça. Mle, c'est pareil. Donc, c'est mle. Ben oui, c'est mle. Oh, mon âme, mle, mon cabo. Ça veut dire, elle met son nez partout. Non, mle, le nez, ça veut dire, je suis fière de mon nez. Parce que quand nos nez sont différents des Français, donc nous, on s'imagine peut-être que leur nez est plus beau, mais eux-mêmes, eux qui ont ça, peut-être qu'ils se sentent autrement.
Quand je regarde mon nez, je l'apprécie par rapport à d'autres femmes africaines. Mais par rapport au blanc, je ne peux pas dire que j'ai un très joli nez par rapport au blanc. Voilà, parce que les blancs, ce que je remarque en général, ils ont un nez bien fin et droit. Voilà, pas très gros, pas très gros, voilà.
Et ça, ça vous plaît?
Et moi, mon nez, il me plaît. Il me plaît par rapport à mon race, voilà. Mm-hmm. Par rapport à ma couleur. Mm-hmm.
Bon, le français, c'est grand. Donc, quand on parle de nez français, voilà, on n'a pas le même niveau de vie. Donc, un français par rapport à un africain, c'est toujours le supérieur. Et bon, avec le nez aussi, bien relevé, tout ça qui attire le regard parce que c'est relevé. Bon, voilà.
À tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits,
à tes. Alors, voilà comment ça... Que dire que c'est les Blancs qui ont toujours les plus beaux nez supérieurs, c'est pas vrai. En Asie, dans certains pays, en Thaïlande, par exemple, Farang, c'est pas un compliment du tout. Être un long nez, c'est pas un compliment du tout. C'est très drôle de voir comment chacun s'aime ou se déteste avec son propre nez vu comme une identité. Et je vais vous raconter pourquoi on a fait ce reportage, cette idée de... C'est que Sophie, qui a fait le reportage, a un papa qui a un gros tarin, un gros gros nez. Et alors, ça inquiétait beaucoup la famille. Et quand les enfants sont nés, eh bien la famille a fait des économies. On a mis de l'argent de côté, on a ouvert un compte dans le cas où, en grandissant, si les enfants avaient un gros tarin comme le papa, ils puissent se faire opérer. C'est une histoire absolument vraie qu'elle nous a racontée. Et alors, il se trouve, par ailleurs, ou lié à ça, que le papa et la maman et les enfants de la famille, de toute cette famille, sont juifs. Et il se trouve que le papa a changé de nom. Changé de nez, l'histoire du nez serait-elle aussi ou entre autres une histoire juive? Sophie est allée voir le docteur
Cohen, qui est ORL.
L'idée dans ma médecine, hein, de refaire un nez de quelqu'un, c'est presque une aversion. Hein. Ça m'embête. Alors que je suis ORL et que je pourrais tout à fait, que j'ai des amis qui refont des nez souvent, en plus que ça rapporte, comme on dit, c'est une chirurgie qui peut être lucrative, mais pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi je voulais... C'est drôle, par exemple, en fait, je crois que je dois dénier, parce que je m'appelle Cohen, et j'ai jamais voulu penser que c'était un nom typiquement juif, alors que vraiment, il n'y a pas plus... Et il a fallu que je m'installe à mon cabinet pour apprendre de tous mes patients, mais tous, hein, juifs et non-juifs, et de loin les non-juifs, que tout le monde savait que j'étais juif et qu'ils savaient qu'ils venaient voir un juif à partir du moment où ils avaient téléphoné à Cohen. Et moi, ça m'a vachement surpris. Ça m'a surpris que les gens le sachent. Et quand j'ai commencé à interroger les gens, on m'a dit, bah oui, c'est une évidence. Comme si je m'étais pas fait à cette idée-là, que je l'étais de toute façon pour les autres, et donc de toute façon en soi... Et... On dirait que j'ai grandi en pensant que je m'appelais d'un nom beaucoup plus beaucoup moins clair. C'est-à-dire que et donc le caractère juif ne ressortant pas de mon nez, à mon avis, c'est quelque chose qui me rassure. C'est vrai que moi j'aime bien qu'il soit fin. Petit, entre pas petit mais pas grand en tous les cas, et qui passe inaperçu en fait. Comme si c'était un problème à régler, comme si c'était que ça se voit pas, quoi, qu'on n'en parle pas en fait, qu'on voit pas. C'est drôle. Ça c'est déjà l'essentiel. Mais c'est vrai que quand je suis frappé, quand je vois mes photos d'enfance, vraiment un tout petit nez, ça je suis assez frappé. Mais bon. C'est vrai que. Ça m'a fait penser à une scène de mon enfance où j'ai pris un bain avec mon père et que j'ai trouvé qu'il avait un zizi énorme. Je le trouvais énorme et bien impressionnant. Et que ça a été l'obsession de ma mère, que j'ai un petit zizi et qu'elle m'a amené plein de fois chez le docteur parce qu'elle était sûre qu'il allait jamais grandir ou je sais pas quoi. Et donc j'ai fait des rêves d'ailleurs d'énormes zizi parce qu'on me donnait des médicaments pour qu'il grandisse. Et pour le nez, je l'ai ressenti comme ça quand j'ai vu mon nez grandir à l'adolescence. Je me suis dit, au moins on verra pas que je suis petit à l'intérieur. En tous les cas, elle m'a jamais dit que c'était bien que j'ai grandi ou que je grandisse. Du nez ou d'autre chose, mais jamais. Et j'ai l'impression qu'elle regrettait ce beau petit nez. Et qu'elle a dit après, maintenant vous me faites penser, que j'étais pas comme ça avant.
Mais je n'irai pas tellement. Non, parce qu'il y avait une bosse, là, ici. Et puis, à mon travail, lorsqu'on me regardait, j'avais toujours l'impression qu'on me regardait toujours de haut. Et justement, avec cette bosse, j'avais l'impression un peu de loucher. J'avais un œil qui fixait toujours la bosse, et j'avais toujours un œil qui louchait, quoi. Donc, ça me posait pas mal de problèmes, quoi.
Et cette bosse, alors, cette fameuse bosse,
ouais.
Vous l'avez toujours eue ?
Non.
Même petite ?
Non. Non, elle était infine, et puis bon, je pense qu'elle est apparue en vieillissant, sûrement suite à un choc hein, que j'ai eu entre-temps, mais je ne l'ai pas toujours eu. Non. Moi, je me rappelle depuis l'âge de 18 ans. Avant, je me rappelle pas avoir eu cette bosse, ou alors j'y prêtais pas attention. Quand je m'en suis aperçu, c'était à l'armée, et je pense qu'on m'a fait remarquer à l'armée. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à faire une dépression nerveuse, quoi. J'en avais assez, quoi. Et j'ai été incorporé après pendant 2 semaines à l'hôpital Bégin, en psychiatrie, justement, à cause de ça, à cause des critiques. Et pendant 2 semaines, j'ai été drogué. Et c'est là qu'on m'a dit que j'avais un problème de respiration. Et là, on m'a prié de retourner chez moi et la première chose que j'ai fait, c'est retrouver du travail. Et j'ai économisé toutes mes payes, quoi. Et la seule chose qui comptait pour moi, c'était de me faire opérer. Et de dire, je suis tranquille, il n'y aura plus ce problème. Et là, actuellement, je me suis fait opérer. Parce que là, actuellement, au boulot, c'était pareil. C'était toujours des critiques. Bon, minime, mais c'était toujours des critiques.
Qu'est-ce qu'on critique chez toi ?
C'est toujours le nez. Toujours, sans arrêt. C'est toi, gros nez. Ou alors, pareil, c'est sans arrêt des vannes, mais bon, c'est insoutenable, quoi. C'est à la limite de l'impossible. On se dit, mais bon, où je suis, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Pourquoi? On sait pas. Plus je me pose des questions, plus j'ai envie de changer. Carrément, même des fois de métier, de tout, mais même de pays. Mais je crois que c'est dans ma nature.
Qu'est-ce que tu fais comme métier?
Bah, je suis enquêteur qualité. Et ça me plaît comme métier, mais je pense que je suis pas compris dans ce que je fais. Je pense que les gens essayent pas de me comprendre et je sais pas, je pensais pas que c'était comme ça, quoi. Je pensais qu'entre les gens, il y avait plus de liens amicaux. Et je trouve qu'il y en a pas assez. Donc, il y a beaucoup de choses qui si je devais les revoir, je changerais beaucoup de choses, quoi. Je changerais pas que mon nez non plus. Il y a tout un entourage que je changerais. Il y a beaucoup de choses que je regrette.
Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans justement ton comportement, les choses que t'as pu louper?
Peut-être le décès de mon frère, quoi. J'aurais peut-être pu le soir de son accident l'empêcher. Il était venu me voir et je lui ai dit que j'avais pas le temps, quoi. Donc j'aurais pris peut-être le temps de parler. Peut-être que j'aurais le temps de. Peut-être que dans le temps qui était fait à un axe de temps précis, quoi, pour l'accident, peut-être que cet axe de temps aurait été changé. Et peut-être que l'accident ne serait pas produit. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Et en fait, je suis tellement bileux, j'ai tellement peur de commencer à faire quelque chose, que je me dis, oh, peut-être bien, ben. Non, je le fais pas, tout compte fait, quoi. Faut pas que je le fasse, parce que si je me plante, c'est fini. Donc, en fait, c'est cette peur qui m'empêche de faire plein de choses, quoi. Et arrive à un moment, ben, je me dis non, fais-le pas, et je le fais pas, quoi. Et après, je regrette. Donc, j'ai mis tout mon objectif sur le nez, peut-être bien. Donc, je me suis dit, si mon nez est mieux, ben, ma vie sera mieux, même si c'est pas vrai. Mais bon, ça me donne toujours espoir. Mais bon, j'arrive pas à l'expliquer parce que j'ai toujours cette boule là qui m'empêche de parler.
Que tu parles de ça?
Ouais.
Et tu crois que ça va partir?
Je sais pas. Je pense pas maintenant en tout cas. Peut-être avec les années ou. Avec d'autres événements, on verra bien. Et je sais que ce qui me plairait, c'est. Moi, c'est pas possible, mais. Je voudrais pas qu'il soit mort pour rien, qu'en fait. J'ai toujours. Je me suis toujours dit, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse voir que. Qu'on l'oubliera pas, quoi. Mais j'y arrive pas. Parce que bon, j'y arrive pas, je sais pas. Je pourrais faire quelque chose de. Qui dise, bah tiens, t'es pas mort pour rien, quoi. Mais bon, je suis peut-être trop trouillard pour le faire. Donc, là, j'ai visé sur le nez. Et puis, bah, si ça marche pas, je viserai aux sources, quoi. Puis, j'espère y arriver.
Après avoir modelé l'homme avec de la glaise à son image, Yahweh lui insuffla aux narines le souffle de vie, si bien que l'homme devint un être vivant, pourvu du moyen de se mettre au parfum.
Un nez banal, c'est un nez qui ne se remarque pas. Un nez parfait, souvent, ça se remarque. Peut-être parce que c'est justement assez rare, en fait. C'est rare de voir quelqu'un qui a un nez tout à fait droit, tout à fait régulier, sans défaut, sans aspérité, C'est suffisamment rare pour qu'on le remarque. Je crois que ce qui compte le plus pour moi, c'est les yeux. C'est un peu dommage que j'ai eu à passer 6 fois sur la table d'opération avant de me rendre compte de ça.
Vous avez des cicatrices ?
Oui, j'ai des cicatrices qui datent de la première opération.
Elles sont situées où ? C'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre.
Non, non, je préfère ne pas en parler. C'est une trahison. Oui, il en dit trop.
Qu'est-ce que ça dit que vous ne voulez pas dire ?
J'irai peut-être un peu loin si je dis que mon nez dit que la vie est belle, mais pourtant c'est un peu ça. Oui, la vie est belle. Et si on s'aime bien, la vie est belle. C'est quand on subit des traumatismes, quels qu'ils soient, quand on sait s'en relever, quand on arrive à s'en relever, alors la vie est belle.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Sophie Simoneau. Plus d'informations sur votre nez, sur le nez et sur mille autres choses sur le site de La Basse J'y suis en allant sur franceinter.com. Et puis, je vous rappelle le site sur lequel vous ne devez surtout jamais aller. C'est un site pirate sur lequel vous pouvez réécouter toutes les émissions de La Basse J'y suis depuis 2001. Ça s'appelle lbsjs.free.fr, lbsjs comme La Basse J'y suis, lbsjs.free.fr. Voilà, c'est des pirates, c'est donc très mal. Je vous le dis, si par hasard vous tombiez dessus, faut surtout pas écouter donc les émissions de La Basse J'y suis depuis 2001. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est donc très mal parce que c'est interdit. Voilà, technique aujourd'hui, Lévin Caron et Olivier Daligo. Koy Nguyen, Christophe Imbert et Pascal Le Pascariello, c'est l'équipe de La Basse J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve lundi pour La Basse J'y suis. On ira faire un tour avec l'ami Ramon Chao dans son pays, en Galice, sur les pattes de la belle Otero. Ce sera une nouvelle diffusion de nos exploits avec Ramon dans sa Galice. Et puis au cours de la semaine prochaine, on ira faire un tour en Normandie, comme tout le monde, en perspective de la célébration du débarquement, mais évidemment, version La Basse J'y suis, version Clairotère. Avec Guy Ventil, on s'intéressera aux visiteurs médicaux. Vous vous souvenez qu'on avait fait le sujet sur la santé? Ben là, on va se balader avec des visiteurs médicaux. Et c'est pas triste. Et puis, avec Thierry Scharf, si tout se passe bien, on ira faire un tour chez Metal Europe. Mais si tout se passe bien, si on est encore là, lundi, il est 18h. Salut à tous, bonne fin de semaine. Le journal Delphine Simon. Salut!